France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. À l'issue du Conseil interministériel de contrôle de l'immigration, François Bayrou veut que soit réexaminée la totalité des accords entre la France et l'Algérie. Antoine Maret nous en dira plus dans un instant. Le président ukrainien annonce un accord cadre avec les États-Unis sur l'exploitation des richesses minières de son pays. Volodymyr Zelensky espère le finaliser avec Donald Trump vendredi, mais ce compromis ne fait pas l'unanimité en Ukraine. Nous irons à Kiev. Nos objectifs climatiques et sociaux restent inchangés, assure Ursula von der Leyen. En même temps qu'elle fait marche arrière sur certains de ses projets sur le climat pour ménager les entreprises, la Commission européenne dévoile un pacte pour une industrie propre. Nous joindrons Fabien Cazot à Bruxelles. Et puis avec Stéphane Robert, nous évoquerons la reprise des négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Indépendantistes, anti-indépendantistes et État, tout le monde est autour de la table. C'est dans un contexte de forte tension avec l'Algérie que François Bayrou a réuni 10 de ses ministres pour définir les orientations du gouvernement en matière d'immigration. Ce conseil interministériel de contrôle de l'immigration avait été annoncé fin janvier, puis reporté. Il s'est finalement tenu peu après une attaque samedi à Mulhouse, au cours de laquelle un passant a été tué et 6 autres blessés. L'assaillant présumé est un Algérien sous obligation de quitter le territoire français, qu'Alger a refusé de reprendre à plusieurs reprises. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
Les relations avec l'Algérie étaient donc au cœur de ce conseil interministériel, Antoine.
Oui, François Bayrou a mis sur la table les accords de 1968, des accords qui apportent des avantages considérables aux ressortissants algériens, des accords liés à l'histoire commune aux deux pays, des accords qui, selon le Premier ministre, ne sont pas respectés par l'Algérie.
Il se trouve que, depuis plusieurs années, ces accords ne sont pas respectés sur un des points fondamentaux qui est la réadmission des citoyens algériens qui bénéficient ou qui ont des papiers d'identité vérifiés sur leur sol. Et comme vous savez, hélas, le drame de Mulhouse a été rendu possible parce que 14 fois, ce ressortissant algérien a été présenté à la réadmission et 14 fois, il a été refusé.
La France exige donc le respect des accords de 68. Et pour cela, François Bayrou lance un ultimatum de 4 à 6 semaines à l'Algérie.
Pendant ce temps, va être présentée au gouvernement algérien une liste, j'allais dire, d'urgence de personnes qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et que nous considérons comme particulièrement sensibles de ce point de vue-là. Nous voulons qu'on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause.
François Bayrou, qui s'est spontanément et longuement ému du sort de Boualem Sansal, le Premier ministre a fait part de son inquiétude sur la santé de l'écrivain franco-algérien détenu en Algérie. Nous voulons que tous les droits qui sont les siens soient respectés, et notamment le droit de choisir ses avocats, a affirmé le Premier ministre.
Antoine Maret à Matignon avec Julien Girard à la technique. François Bayrou assure ne pas vouloir entrer dans l'escalade avec l'Algérie. N'est-ce pas malgré tout ce qui risque de se passer ? Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir.
Les relations entre les deux pays n'ont fait que se tendre ces dernières semaines.
Ah oui, on peut dire que la notion de tension est même dépassée. Parler véritablement de crise maintenant entre les deux pays, elle a commencé, sans le dire trop fort, l'été dernier, au moment où la France a décidé de soutenir le Maroc, on s'en souvient, dans sa reconnaissance du Sahara occidental. Une offense pour Alger qui défend les revendications d'indépendance du Front Polisario dans la région. Depuis, tout est devenu prétexte à conflit. On pense bien sûr à celui qui est né autour du sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné à Alger depuis novembre dernier. Le pouvoir algérien lui reproche des propos tenus dans un magazine identitaire réputé d'extrême droite et semble surtout vouloir l'utiliser comme moyen de représailles. Mais on pense aussi au conflit lié aux fameuses obligations de quitter le territoire dont on vient de parler, qu'Alger refuse de signer pour ses ressortissants, comme ce fut le cas encore dernièrement avec l'assaillant de l'attentat de Mulhouse. Et l'annonce donc cet après-midi du Premier ministre François Bayrou de réexaminer la totalité des accords conclus en 1968 risque de transformer la crise en une véritable crise ouverte cette fois entre nos deux pays.
Nathanaël Charbonnier, Manuel Valls prolonge son séjour en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer a ouvert aujourd'hui des négociations sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Depuis son arrivée à Nouméa samedi, Manuel Valls a plaidé pour la paix et le vivre ensemble et il a obtenu que se tiennent des discussions trilatérales associant l'État, les indépendantistes et les anti-indépendantistes. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé.
Oui, il n'y avait pas eu de négociation de ce type depuis plusieurs années car tout était gelé depuis le dernier référendum sur l'indépendance organisé le 12 décembre 2021 contre la volonté des leaders indépendantistes. Ils avaient alors décrété le boycott du scrutin, toute la communauté Kanak avait suivi. Et depuis, les indépendantistes refusent de reconnaître le résultat de ce troisième et dernier référendum. Et ils refusaient également jusqu'ici de discuter de la suite et de l'avenir de l'archipel. Par conséquent, ces négociations trilatérales avec l'État français et les loyalistes sont une vraie nouveauté et constituent une avancée vers un déblocage de la situation. Tout ça est le fruit d'un changement de cap complet, d'un virage à 180 degrés initié par le nouveau ministre des Outre-mer. Alors que les précédents ministres en charge du dossier avaient pris parti pour le camp loyaliste, Manuel Valls a réaffirmé la neutralité d'État français et alors qu'une partie du camp loyaliste affirmait que les accords de Nouméa étaient désormais caducs, qu'il fallait définitivement acter l'intégration de la Nouvelle-Calédonie dans la République française, Manuel Valls a affirmé que ces accords n'étaient pas caducs, que les nouvelles discussions s'inscriraient dans le cadre de ces accords et que le processus d'émancipation qu'ils avaient initié n'était pas achevé. Ce changement de position a suscité et suscite encore la protestation de certains non-indépendantistes, mais il a aussi permis de ramener à la table des discussions les indépendantistes, y compris les plus radicaux. Ça ne veut pas dire qu'on aboutira à un accord d'ici la fin de ces négociations, prévues vendredi. C'est même assez peu probable, tant les négociations sont difficiles et les positions divergentes, mais ça veut dire que Manuel Valls a établi les conditions nécessaires à la négociation d'un éventuel accord sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui en soi est déjà une réussite, et le fait que le ministre annonce déjà qu'il restera un jour supplémentaire est un des signes que les choses avancent.
Stéphane Robert. Éric Ciotti, président du parti Union des droites pour la République, annonce que le groupe UDR inscrira la suppression de l'Office français de la biodiversité dans sa niche parlementaire dans quelques semaines. Cessons de criminaliser les agriculteurs, déclare Éric Ciotti. Nourrir les Français n'est pas un crime. À l'inverse, Emmanuel Macron, lors de sa visite au Salon de l'agriculture samedi, a appelé tout le monde à être respectueux avec les agents de l'OFB, dont la mission est notamment de contrôler les agriculteurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales. Des espaces de vente directe des producteurs dans les hypermarchés, des alertes à la surproduction. À l'appel de l'animatrice de télévision Karine Lemarchand, soutien revendiqué du monde agricole, plusieurs patrons de la grande distribution ont promis ce matin de s'engager pour soutenir les agriculteurs français. Hormis Michel-Édouard Leclerc, tous les groupes ont répondu à l'appel. Bonsoir Laura Dulieu.
Bonsoir.
Les producteurs que vous avez rencontrés au Salon de l'agriculture saluent cette initiative, mais ils attendent de voir.
Oui, la plupart sont plutôt sceptiques. Par exemple, sur cette alerte sur production que veulent lancer Karine Lemarchand et les grands distributeurs, il s'agirait d'informer en temps réel les Français sur tel fruit ou tel légume qu'il faudrait acheter pour soutenir les producteurs. Philippe Bon est producteur de fraises dans le Vaucluse à Carpentras. Il est aussi vice-président de la FDSEA dans ce département et selon lui, c'est surtout aux grandes surfaces de réagir plus qu'aux consommateurs.
Quand on est en difficulté justement avec pléthore de fraises par exemple, on a des promotions qui sont passées avec des magasins, on les avertit déjà à l'avance. Tout ça, ça existe déjà. C'est une communication qui n'est pas à refaire ni à faire. L'important, c'est qu'eux soient réactifs. Et généralement, ils laissent pourrir la situation pour faire baisser le prix. Et bien sûr, quand on a trop de fraises, ben là, et finalement, ils interviennent.
Quant à l'espace dédié dans les hypermarchés où les petits producteurs en difficulté pourraient vendre leurs fruits et légumes au prix qu'ils souhaitent, là aussi, Michel Piquet, producteur de fraises et de poireaux en Sologne dans le centre Val-de-Loire, se montre dubitatif.
Moi, je n'ai pas la certitude que ça puisse être effectivement mis en place comme ça de façon abrupte. Ce n'est pas on claque des doigts et c'est parti. Il y a un cours sur un produit, il y a un cours journalier, mais il est bien évident que si un produit, quel qu'il soit, vaut, moi je ne sais rien, on va dire 2,50€ au détail, et si on décide dans un coin de le vendre 5€, ça me paraît impossible, le consommateur ne suivra pas.
Le consommateur ne suivra pas car il a été habitué au prix bas. Hors micro, beaucoup d'exploitants soulignent que si les petits producteurs se retrouvent à avoir besoin de ce genre d'espace où les prix sont plus justes pour eux, c'est bien souvent parce que ceux négociés avec la grande distribution ne le sont pas.
Laura Dulieu, accusé d'avoir assassiné 3 personnes dans la basilique de Nice le 29 octobre 2020, Brahim Aouissaoui attend le verdict de la cour d'assises spéciale de Paris. Vous êtes sur place, Sébastien Germain, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, dans un réquisitoire à deux voix, les avocates générales du parquet national antiterroriste ont requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible, qu'on appelle aussi perpétuité réelle, et a suivi la plaidoirie de la défense, Sébastien.
Effectivement, cette défense avec une question, comment défendre l'indéfendable? Eh bien, en énonçant clairement le verdict avant qu'il soit prononcé, c'est ce que dit maître Martin Méchin, l'avocat de l'accusé qui se dresse face à la cour. Et sans note, il clame 11 jours d'audience pour une perpétuité assurée. Votre décision est déjà prise, monsieur le président. Alors maintenant, parlons du passé, du présent et peut-être un peu du futur de l'accusé. Alors maître Méchin évoque les 25 années de celui qu'il n'appelle pas Aoui Saoui, mais Brahim. Et il détaille comment un enfant aimé au fin fond de la Tunisie devient un ennemi de la France, auteur de 3 meurtres dans une basilique à Nice. Le présent, c'est ce procès, reprend maître Méchin. Le plus important pour nous, ces avocats, c'est qu'il parle. Depuis 4 ans, il n'avait pas dit un mot et là, il vous a dit sa vérité. Cette vérité, elle est à prendre maintenant ou à laisser. Maître Méchin conclut, comme je vous l'ai dit, je sais que votre décision est déjà prise, mais demain ou après-demain, il faudra bien que tous, on se regarde dans un miroir, qu'on se dise qu'Aoui Saoui n'est que le reflet de notre société qui se construit dans l'opposition entre les peuples, les religions et les idéologies. Monsieur le Président, on vous a requis la peine maximale, la peine incompressible. C'est la peine de mort des hypocrites. Ne soyez pas hypocrite, Monsieur le Président. C'est la seule voie qui nous est offerte pour lutter contre le terrorisme.
Sébastien Germain de Ici Azur pour France Culture. Un accord aurait été conclu entre Kiev et Washington pour l'exploitation des réserves ukrainiennes de terres rares, de minerais critiques et d'hydrocarbures. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer vendredi son homologue américain à Washington pour finaliser cet accord. Mais si Donald Trump entend ainsi récupérer le montant de l'aide fournie à l'Ukraine par son prédécesseur, cet accord n'est pas du tout du goût des Ukrainiens. Plusieurs centaines d'entre eux ont d'ailleurs tenu à exprimer leur mécontentement en manifestant devant l'ambassade des États-Unis à Kiev. Reportage de Bastien Bory dans la capitale ukrainienne.
Non au pillage de l'Ukraine, entend-on dans les porte-voix. Le pays concentre en effet 5% des ressources minières mondiales, de quoi ouvrir l'appétit de Washington qui demande la moitié des revenus générés par l'ensemble du secteur des ressources naturelles ukrainien. Olga, sociologue, est abasourdie.
Donald Trump apparaît comme persuadé qu'il pourra s'emparer des minerais de l'Ukraine et de ceux du Donbass. Et il fait même une distinction entre les deux, comme si le Donbass était déjà, selon lui, un territoire russe. Je pense que c'est très cruel et injuste de sa part. Nous avons tous ici le sentiment que Donald Trump est un traître. J'espère que Volodymyr Zelensky réfléchira à 2 fois et même à 3 fois avant de signer un accord qui serait terrible pour l'Ukraine et qui nous conduira à devenir une vraie colonie.
Mais le président ukrainien, lui, veut surtout s'attirer les bonnes grâces de l'Occident. En évoquant une potentielle visite à Washington vendredi, il laisse entrevoir la possibilité de céder du terrain aux Américains en échange de garanties de sécurité pour l'Ukraine, ce à quoi Donald Trump n'a pourtant toujours pas consenti.
Forcer un pays en guerre à signer un accord sans l'inclure dans les négociations et sans se concerter avec lui, ce n'est pas ce que feraient les leaders d'un monde authentiquement démocratique. Au lieu de résister face au dictateur Poutine, les Américains se mettent de leur côté. Ils discutent avec lui, sans le peuple ukrainien et sans ses représentants. Et cela montre non pas un signe de force, mais de faiblesse. Donald Trump a l'air d'avoir peur et Poutine arrive à le soumettre à son chantage.
Comme des milliers d'autres Ukrainiens, Marina perd confiance en son président dont la cote de popularité a baissé de 30% depuis le début de cette guerre.
Bastien Bory, à Kiev. À Washington, Donald Trump réunit aujourd'hui son premier conseil des ministres. Le milliardaire Elon Musk sera présent en tant que chef du département de l'efficacité gouvernementale, chargé de licencier des milliers de fonctionnaires et de réduire drastiquement les dépenses de l'administration. Mais nous verrons à 19h les remous, forts remous que suscite cette politique. Donald Trump veut aussi mettre un terme aux politiques de diversité, équité et inclusion qu'il considère comme une forme de discrimination. Il a signé une série de décrets présidentiels en ce sens, mais là aussi, il y a des résistances. Les actionnaires d'Apple ont ainsi décidé de maintenir leur programme de diversité au sein des effectifs du groupe, alors que d'autres grands groupes comme Walmart ont remis en cause ce type de programme. Loïc Piala.
Meta, Google ou Amazon n'ont pas tardé à suivre l'administration Trump pour en finir avec leur programme de diversité. Les actionnaires d'Apple ont, eux, décidé hier à 97% de les maintenir. Visiblement, Tim Cook a trouvé les mots pour les convaincre. « Nous continuerons à créer une culture du vivre ensemble », a expliqué le PDG du groupe. « Notre culture unique nous permet de créer les meilleurs produits et services du monde », a ajouté celui qui dirige une entreprise pesant plus de 3500 milliards de dollars à Wall Street. Cook concède toutefois que le paysage juridique est en train de changer. Au décret présidentiel dénonçant les politiques de diversité s'ajoute une décision de la Cour suprême remettant en cause la discrimination positive dans les universités. C'était l'argument du Centre national de recherche pour les politiques publiques, un lobby conservateur. Selon lui, des employés pourraient poursuivre Apple en justice pour discrimination, ce qui coûterait des dizaines de milliards de dollars à la firme californienne. Le même lobby avait tenté la même stratégie avec Costco pour le même résultat. Le géant de la grande distribution a maintenu ses programmes de diversité.
La Commission européenne a dévoilé aujourd'hui son texte sur la simplification des démarches administratives pour les entreprises. Au moment où Donald Trump veut déréglementer à tout va aux États-Unis et imposer de nouveaux droits de douane au vieux continent, Bruxelles se montre à l'écoute des entreprises qui se plaignent du temps et de l'argent qu'elles perdent à leur gestion. La Commission en fait même un enjeu de compétitivité. Au risque, craignent notamment les écologistes, de détricoter les ambitions du pacte vert européen. On retrouve Fabien Cazot à Bruxelles.
Premier acte de simplification, tout ce qui concerne les rapports que les entreprises sont tenues de publier au sujet de l'impact social et environnemental de leurs activités. L'obligation ne concernera plus que les entreprises de plus de 1000 salariés et le nombre d'informations exigées sera quant à lui réduit. Autre texte phare de la précédente mandature, la directive instaurant un devoir de responsabilité des entreprises envers leurs sous-traitants pour s'assurer que leurs activités sont conformes aux standards européens en matière d'environnement et de droits humains. Là, c'est un report d'un an, un très mauvais message selon ce syndicaliste belge Thomas Missen de la Confédération CSC.
On a eu pendant 20 ans des déclarations de grandes multinationales et d'autres en disant « laissez-nous faire de manière volontaire, on va gérer ça ». Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Pas encore aujourd'hui, vous achetez un ordinateur, vous achetez un pantalon, vous ne savez pas si il a été produit de manière décente.
La Commission européenne répond que ces mesures de simplification ne constituent pas un renoncement au pacte vert, tout juste l'introduction d'un peu de souplesse en maintenant l'objectif d'une économie européenne totalement décarbonée à l'horizon 2050.
Les objectifs restent inchangés, insiste Ursula von der Leyen. D'ailleurs, la présidente de la Commission a aussi présenté un document baptisé « Pacte pour une industrie propre ». Jusqu'à 100 milliards d'euros pourraient être mobilisés pour soutenir des projets contribuant à la décarbonation de l'industrie européenne. Le président de l'entité serbe de Bosnie est condamné à un an de prison, mais également à 6 ans d'interdiction de participation à la vie politique de son pays. Pour le tribunal supérieur de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik est coupable de ne pas avoir respecté les décisions du tribunal constitutionnel de Bosnie et d'avoir ignoré les injonctions du haut représentant international pour la Bosnie. Cette condamnation pourrait avoir d'importantes conséquences. Laurent Rouy, notre correspondant dans la région, nous explique pourquoi.
Depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a 18 ans, Milorad Dodik a toujours défendu un agenda nationaliste et séparatiste, se faisant l'avocat de l'indépendance de l'entité serbe, une position synonyme d'éclatement pour la Bosnie. Son conflit avec le tribunal constitutionnel bosniaque le mène aujourd'hui à une interdiction de participer à la vie politique du pays. Combatif, Dodik a déjà fait savoir qu'il refusait le verdict. Il annonce que le Parlement de l'entité qu'il contrôle va voter rapidement plusieurs lois pour interdire une partie du système judiciaire, mais aussi la police fédérale et les services secrets de Bosnie. Il en appelle à son peuple, tandis que l'opposition lui demande au contraire de démissionner pour sauver la République serbe de Bosnie. Le président de la Serbie voisine, Aleksandar Vučić, qui a convoqué son conseil de sécurité cet après-midi, se rendra ce soir à Banja Luka. Dodik espère de lui un soutien. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur bosniaque a augmenté les mesures de sécurité dans le pays pour éviter tout incident interethnique. La Russie, qui avec Dodik risque de perdre son meilleur allié dans la région, a aussi apporté son soutien au président condamné par un communiqué inhabituellement brutal qui condamne une manœuvre de l'Ouest.
Laurent Rouy, à Belgrade. Le Hamas affirme qu'il va rendre dans la nuit 4 corps d'otages israéliens morts en captivité à Gaza. Le mouvement islamiste palestinien affirme qu'en contrepartie, Israël libérera plus de 600 détenus palestiniens, ce qui mettrait fin aux échanges prévus par la première phase du fragile cessez-le-feu qui s'achève samedi. Aujourd'hui en Israël, des dizaines de milliers de personnes se sont massées le long des routes pour saluer le passage du cortège funéraire transportant les dépouilles de Shiri Bibas et de ses deux petits garçons enlevés lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et tués en captivité à Gaza. Météo France prévoit encore quelques pluies demain avec des averses circulant du nord de la Bretagne aux Ardennes en matinée et dans le nord-est l'après-midi. Le nord-ouest et le centre bénéficieront de belles éclaircies. Elles seront plus timides sur le sud-ouest. Les températures minimales seront généralement comprises entre 2 et 6 degrés. L'après-midi, il fera 7 à 12 sur la moitié nord, 10 à 15 dans le sud, jusqu'à 19 degrés en bord de Méditerranée.